D'abord, aujourd'hui, on va essayer de se familiariser avec deux notions qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont différentes à dessein. Peut-être celle que vous avez entendue le plus souvent, c'est la notion de seuil plancher, qu'on va le voir tantôt. C'est surtout, la première appartient surtout au mouvement communautaire et à l'ACA. Ça fait partie souvent, et c'est lié depuis plusieurs années, je dirais presque 20 ans maintenant, d'une façon ou d'une autre, indirectement aux revendications des secteurs ou du RQAK comme tel. Cette notion-là est rattachée aux revendications qu'on met de l'avant vis-à-vis du gouvernement. Alors que les planchers de financement, on va le voir, ce n'est pas un terme officiel, mais c'est un terme qu'on utilise puis qui est pas nécessairement, se vit pas nécessairement dans tous les ministères actuellement. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place dans notre programme de financement en 2019. Puis pour nous, le RODCD, c'était de faire la distinction, parce que c'est déjà complexe de même, entre la notion de seuil plancher que nous, on dit, c'est vraiment, ça appartient au mouvement, c'est la définition du mouvement, alors que le plancher de financement fait référence vraiment aux minimums qui sont établis dans le programme de financement. Donc, ce n'est pas les revendications, c'est ce qui existe réellement, c'est ce que vous recevez dans vos poches selon le gouvernement, ce qui a mis en place. Fait que les deux, il y a la notion de minimum, si on veut, mais la différence est plus, un, c'est plus la partie au mouvement, tandis que l'autre, c'est la décision gouvernementale. La notion de seuil plancher, ben, se fait de. On en a discuté longuement. C'est un sujet délicat en bout de ligne. Ça n'avait pas été facile la première fois, puis ça ne l'a pas été plus la deuxième fois, parce que malheureusement, c'est les malaises ou différences de position entre les secteurs ou regroupements, c'est un peu une des raisons qui explique la fin récente qu'on a appris de la campagne Engagez-vous. Donc, c'est un sujet qui a pas, a priori, a déjà nous a déjà par le passé divisé un peu. ouais, excusez. Mais c'est quand même là présent parce que ça découle dans la logique de la politique de ce qu'on appelait les balises nationales de financement, c'est-à-dire une volonté d'avoir un financement minimum commun pour l'ensemble des groupes d'action communautaire autonome, quelle que soit leur mission. C'est un peu ça l'objectif de base. Donc, quel que soit le ministère financier, quel que soit tout, qu'il y ait comme des balises qui soient reconnues par l'ensemble des ministères, puis que tous les groupes aient, quelle que soit leur mission, aient droit à peu près au même financement de base. Ces balises-là ont été adoptées en 2003, puis par la suite, quelques années plus tard, on a indexé les balises qu'on avait adoptées en 2003 annuellement. À chaque année, le RQAK, le comité aviseur à l'époque, puis ensuite qui est devenu le RQAK, indexait ces montants-là au fur et à mesure. Comme je dis, c'est quoi la définition des seuils planchers? Pour le communautaire, ça correspond à un montant minimum de soutien gouvernemental déterminé selon les besoins exprimés par les groupes et pouvant être rehaussé en fonction de différentes variables exposées dans le cadre de référence. Effectivement, on va en reparler un petit peu tantôt sans rentrer dans trop de détails. C'est-à-dire que la notion de seuil plancher n'exclut pas la possibilité qu'un organisme, pour différentes raisons, ait besoin de plus et le justifie en fonction de ses besoins-là. Bon, une des variables, ça pourrait être, par exemple, pour les groupes en région éloignée, la question du déplacement. À cause des déplacements, des frais de déplacement que j'ai à faire, je pourrais demander plus que le minimum. Ça, c'est une des variables, entre autres. Il y en avait plusieurs. La notion de seuil plancher existe aussi dans le cadre de référence. On a réappris ça l'année passée quand on a fait toutes les discussions sur la révision du cadre de référence, dont on devrait avoir des nouvelles normalement un peu plus tard cette année. Où effectivement la notion existe, mais elle n'a pas repris la définition que nous, on s'est donnée comme mouvement. Et là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais savoir quand même que la notion existe dans le cadre de référence. Les principes adoptés à l'époque, c'est intéressant quand même, je vais faire un petit retour historique parce que c'est éclairant rapidement sur un petit peu l'évolution que ça a eu notre réflexion collective sur ce dossier-là. Les principes adoptés à l'époque, ben, au niveau du financement, il y avait d'abord, pour les organismes de base, on avait catégorisé le financement en fonction de quatre typologies de groupes. Il y en a qui allaient de soi, mais il y avait ce qu'on pourrait appeler un chapeau, j'aime pas le terme là, vraiment, mais en même temps, ça définit un peu, c'était les groupes de services à la population, si on veut, c'est-à-dire tous les organismes qui sont en défense collective des droits, en aide, entraide, éducation populaire, si on veut, alphabétisation, qui donnent, qui ont un membership, mais qui ont un service. Puis il y avait les groupes de milieu de vie. Qui, eux, se différenciaient par le fait que souvent leurs membres ben, pouvaient venir aux activités puis passer même peut-être la journée dans l'organisme. Il y avait des échanges entre les membres. On pense peut-être aux centres de femmes, aux maisons de jeunes, ce genre d'organismes-là, pour donner des exemples. Puis il y avait aussi, mais naturellement, les centres d'hébergement puis d'autres catégories plus spécifiques. Donc, on avait un financement différent en fonction de ces catégories-là. Ça, c'était un des critères. Puis l'autre, c'était... Ça, c'est une notion qui a complètement sauté, mais qui existait à l'époque. On avait aussi un financement des chiffres en fonction des phases de croissance. C'est-à-dire qu'à l'époque, on proposait un financement d'entrée plus bas pour les groupes qui étaient un premier financement pour peut-être sa première entente, si on veut. Ensuite de ça, il y avait une phase de développement, puis la phase de maturité qui donnait le maximum possible, ben, le plancher, max, le plancher, si on veut. Mais à chaque étape, les groupes recevaient un peu plus. Ça, on va voir, ça n'existe plus aujourd'hui. On note qu'il y a une base territoriale. Il n'y en a pas pour les organismes de base. On n'avait pas reconnu ça. C'était tous les organismes avaient selon les deux catégories dont je viens de mentionner. Ça existait par contre pour les regroupements, où il y avait un financement différent. C'était un regroupement local, un regroupement régional ou un regroupement national. À la suite de ça, comme j'ai dit tantôt, puis c'est là que ça l'a achoppé à l'époque, les discussions, on a essayé de s'entendre sur les variables qu'on pourrait présenter au gouvernement pour justifier d'avoir plus que le seuil plancher, si on veut. On ne s'est pas entendu. Fait que ce qui a été fait, grosso modo, de mémoire, c'est qu'on a envoyé, le comité avisé a envoyé quand même une longue liste d'épiceries de variables en fonction des priorités, ben, en fait, des besoins exprimés par les groupes. Bon, on parlait de densité pour les groupes en milieu urbain, le volume de demande, d'autres parlaient d'autres besoins. Fait que on a envoyé une liste qui est en partie retenue dans le cadre de référence, mais qui existe d'une certaine façon, mais qui, à connaissance, n'a jamais été appliquée dans aucun programme de financement. Fait que j'arrive avec tout ça, nous, comment qu'on se place, le RODCD, là-dedans. On a toujours été collé sur ces seuils planchers-là. Puis l'exemple le plus, vraiment le plus criant, qui a été quand même important dans l'histoire du RODCD jusqu'à récemment, fait pratiquement jusqu'au congrès de 2023, c'est la revendication qu'on avait adoptée en 2015, qui est basée sur les seuils planchers qui existaient à l'époque. Ce qu'on demandait à ce moment-là, c'était un rehaussement du financement de 40 millions. On revendiquait déjà une indexation de nos subventions à la mission globale. Donc, c'est pas nouveau, hein, comme vous voyez. Et que le financement à la mission globale tienne compte des coûts supplémentaires pour les organismes doivent envisager de couvrir des frais limités aux limitations fonctionnelles pour leurs bénévoles, leurs travailleurs, administrateurs et membres. Ça, c'est une particularité qui est pas mal juste de notre secteur. Donner une idée de ce que ça a donné en 2015, vous retrouvez les montants qui supportaient notre demande. Donc, le 40 millions, on avait, il y a deux tableaux, là, je ne sais pas spécifier parce que je manquais d'espace, mais le premier, ça concerne, c'est les groupes qui étaient financés à l'époque. Donc, vous avez le montant, vous avez le montant local. Il y a juste un chiffre parce que ce que je vous ai dit tantôt, les phases existaient encore, mais ils ont fait comme une médiane des montants. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Il y a juste un chiffre que vous retrouvez. Local, régional, national, le nombre d'organismes, puis le montant. Là, vous allez me dire, ben Sylvain, tu as dit que c'était à 40 millions la revendication, mais si je fais juste les chiffres des groupes financiers, je dépasse le 50 millions, ben ça, c'est les besoins totaux. Mais on soustrayait le montant déjà accordé à l'époque. Donc, c'est pour ça que ça dépasse. Puis, on avait prévu également, le deuxième tableau touchait les organismes en attente de financement. Donc, déjà en 2015, on avait un sentiment d'inclure les groupes qui étaient en attente de financement. Il existait une liste à l'époque des groupes qui étaient en attente de financement. Donc, on savait le nombre qu'il y avait. Ensuite de ça, la deuxième grande étape qui un peu met si on veut, le contexte là, dans lequel on a évolué, c'est la proposition de 2019. Je remets des éléments de contexte pour les personnes qui n'étaient pas là. On n'a pas eu d'augmentation de financement, pour ainsi dire, pendant toute la période qui va de l'application de la politique jusqu'en 2018. En 2018, il y a une première volonté réelle, si on veut, du gouvernement d'augmenter nos budgets, mais ça ne passe pas nécessairement comme on aimerait. C'est les libéraux qui, dans le cadre du plan de lutte à la pauvreté à l'époque, annoncent un rehaussement du financement pour les groupes en décédé. Ça ne fait pas vraiment consensus ça ne répond pas vraiment à ce que nous, on aurait besoin. Fait qu'il y avait deux choses qui nous ont choqués en 2018. D'abord, je me suis trompé, là, je pense que je ne l'ai pas corrigé encore. C'est ça. En fait, on a augmenté le même pourcentage à tout le monde. Je pense que j'ai inversé dans le PowerPoint, je vais le corriger. Ça fait que ça a été. Donc, c'est un type d'augmentation en 2018 qui ne faisait rien pour diminuer les disparités de financement qu'il y avait entre nos membres. Donc, c'est ça, j'ai écrit le même montant d'augmentation, c'est pas ça, c'est le même pourcentage qu'on devrait lire, réduit, ça ne réduisait pas les inégalités. Il y avait la volonté annoncée, mais qui ne s'est pas concrétisée, de financer uniquement la défense individuelle des groupes. Donc, ça, c'était vraiment deux éléments de contexte qui ont motivé la prise de position en 2019, pour laquelle on s'est entendu à l'époque. Puis aussi, bien, comme j'ai dit, on veut prioriser les groupes les moins bien financés et inclure des organismes en attente de financement. Donc, avant 2019, il y avait d'énormes disparités, il n'y avait pas vraiment de logique dans le financement. Les groupes étaient restés avec le financement, grosso modo, qu'ils avaient en 2003-2004. Fait que les groupes qui n'existaient pas depuis longtemps, puis qui avaient peut-être juste du SACA à l'époque, SACA, parce que je ne sais plus, à un moment de la politique, mais bon, qui avaient juste une enveloppe de financement, avaient nécessairement moins que les groupes qui, ou du moins certains des groupes qui avaient eu du financement historique de d'autres programmes, je pense au PSEPA, soutien à l'éducation populaire autonome au ministère de l'Éducation. Certains avaient du financement de santé et services sociaux, ainsi de suite. Tous les montants en 2003 avaient été rapatriés à l'intérieur du SEQE. Fait que ça faisait des inégalités qui n'étaient pas nécessairement logiques, qui étaient juste basées sur qu'est-ce que le groupe avait réussi à obtenir avant l'arrivée de la politique. Donc, 2019, on voulait un peu corriger ça, puis vraiment aider les groupes qui étaient sous-financés. Donc, vous retrouvez les éléments de la proposition qu'on a faite en 2019. Alors, c'est comme un peu, je disais, c'est verser un montant égal à tous les organismes. Là, c'est écrit comme faux, parce qu'on voulait justement diminuer les inégalités. Rehausser les montants minimaux versés par le FACA aux organismes en défense collective des droits en fonction de leur vocation locale, régionale et nationale. Donc, quand je disais, on est encore collé sur les seuils, les paliers de financement, vous le retrouvez dans ce deuxième axe-là. Puis on visait à peu près que ça soit 51% des subventions planchées, le petit tableau que je vous ai montré tantôt. OK, qu'on atteigne au moins ça pour chacun des groupes. Il avait monté à l'époque, là, tantôt c'était en 2015, on est 4 ans plus tard. Donc, c'est à peu près ça. C'est un savant calcul, le 51%, je présume, il n'était pas, pas éteint, c'est pas sorti d'un chapeau comme ça, là. C'était qu'on savait déjà à l'époque qu'il y avait autour de 9 à 10 millions qui étaient sur la table. Je pense à peu près. Donc, on connaissait le montant global qui nous attendait à peu de choses près. Puis donc, le 51%, on savait que ça rentrait à l'intérieur du montant que le gouvernement était pour nous offrir à ce moment-là. Et la même chose pour les 22 organismes en attente de financement. Donc, vous voyez que là, entre autres, je vais les redire un peu tantôt, la notion de phase de développement en saute. On propose que les nouveaux organismes aient le même montant que ceux qui sont déjà financés. Il n'y a plus de phase d'arrivée ou de premier financement. La deuxième aspect important de souvenir quand on va vraiment arriver à une proposition, c'est que, mais je voulais la mettre telle quelle parce que ça a été décidé, c'est effectivement officiellement un mandat du RODC actuellement, puis il n'a pas été modifié depuis ce temps-là. Mais comme on vous le voyait dans le préambule, si on veut, c'était vraiment parce que le SAQUEN nous demandait d'avoir une position sur la couverture territoriale. Le SAQUEN avait décidé qu'il reprenait ce critère-là dans sa attribution ou la distribution des montants cette fois-là. Et a demandé l'opinion du RODCD. Fait que c'est un petit peu, t'as pas nécessairement des objectifs initiaux du RODCD, mais pour répondre à la demande du SAQUEA, on a décidé de proposer notre propre répartition plutôt que de décider ce que le SAQUEA déciderait. Donc, vous l'avez là. Donc, on avait les groupes locaux. On y avait donné, il fallait qu'ils couvrent au moins deux MRC, au moins un ou plusieurs quartiers, villages ou municipalités. Un groupe régional devait couvrir au moins une ou deux régions administratives, trois municipalités, MRC et plus. Et pour un organisme national, couvre au moins trois régions administratives ou plus. Donc, c'est ce qu'on a envoyé au SAQUEA à l'époque. Fait que ça, c'est pour le faire le tour un peu de ce qu'on a fait à ce moment-là au niveau des revendications. En parallèle, on va voir que les choses bougent au niveau des seuils planchers pour l'ensemble du communautaire autonome. Donc, pendant que nous, on adopte la proposition que je vous ai parlé tantôt, qui reste encore collée sur les seuils planchers qui étaient adoptés par le RQAC à ce moment-là, il y a à peu près à la même période, il y a d'autres groupements qui, eux, se donnent des nouveaux seuils planchers. Alors, je pense notamment à la TRPOCB puis à la Table nationale des CDC, qui commencent à faire bande à part puis qui se donnent des nouvelles définitions de seuils planchers qui sont pas mal plus élevées que ce que le RQAK avait dans ses propres chiffres. Il y a des regroupements, des organismes qui commençaient à trouver que même en indexant, les montants étaient trop bas. On va noter aussi que la phase de croissance dont j'ai parlé, elle saute complètement dans tout ce qui était amené dans la réflexion des autres secteurs. Aussi, ce qu'on va noter, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, là, je parle des seuils planchers tels qu'ils sont maintenant. Mais là, je n'ai pas le temps d'expliquer le détail, mais tu sais, vous vous en souvenez peut-être, là, sinon on a une rencontre, on va peut-être ordonner des rencontres de formation là-dessus. Mais dans les nouveaux seuils planchers, une autre distinction que je trouve importante de noter, dans la vieille version, si on veut, il y avait juste un montant global. Hein, vous avez vu les chiffres, il y avait un montant, puis c'était tout. On ne l'expliquait pas tant que ça. Je pense que c'était beaucoup parce qu'on voulait pas, vraiment pas d'ingérence dans le financement du gouvernement, puis on voulait une défense d'autonomie. Fait que les organismes étaient libres de gérer le budget qu'ils recevaient, puis on voulait pas donner de pistes ou d'idées au gouvernement. Dans la nouvelle version des seuils planchers qui sont maintenant en cours, ben on a très, très concrètement une division entre une partie qui touche pour les salaires et les avantages sociaux, puis une autre partie pour les autres dépenses. Vous en souvenez peut-être, on a fait des débats sur le 60-40, 70-30, ainsi de suite, par rapport au financement. Mais quand on articule la revendication, puis qu'on l'explique d'où, pourquoi qu'on demande cet argent-là, il y a une partie qui explique clairement les salaires, puis un peu moins clairement l'autre partie. Donc, ce que ça a donné comme aboutissement de la nouvelle phase, c'est que la revendication est passée, pour vous donner une idée de grandeur, là, comment qu'on est, ça a fait un bon. Au total, le résultat final de tout ce processus-là, qui a commencé tranquillement en 2014, puis qui s'est achevé, si on veut, il y a un an ou deux. La revendication globale de l'ACA, qui était encore en 2022 de 430 millions, est maintenant, dans les documents du RQ-ACA, passée à 2,6 milliards pour l'ensemble de l'action communautaire autonome. Faut pas se surprendre, donc, que ça a causé des petits malaises, des divisions qui ont eu des répercussions sur la campagne Engagez-vous. C'est quand même un bonbon. Un bon saut, excusez. Oups, encore une fois, sauter une. Donc, je reviens sur les planchers de financement parce que c'est là qu'on vient, nous, vraiment, là, j'achève sur vraiment les enjeux qu'on va avoir à se pencher, nous, pour définir nos positions. Donc, comme j'ai dit, les planchers de financement désignent le financement minimum qu'un organisme reçoit en fonction de son palier. Ça n'existe pas officiellement. Hein, ça va être un enjeu, je vais y revenir tantôt, là. Il est pas, cette notion-là, elle n'existe pas. Elle n'existe même pas dans notre convention ni dans notre cadre normatif. Okay. Comme j'ai dit, on l'utilise pour des raisons de clarté. Ce qu'on voulait faire comprendre aux gens, là, pour ne pas les mêler, c'est déjà assez mêlant, tu sais, que quand le RODCD parle de seuil plancher, il parle des revendications qu'on a. Quand il parle de plancher de financement, il parle de ce que vous recevez réellement en fonction de vos paliers. Okay? Donc, c'était vraiment dans une optique pour nous, c'est que ça clarifie un peu les deux notions. Puis, pour ceux qui posent la question, ben actuellement, les planchers de financement dans son budget 2022, le gouvernement avait annoncé des hausses qu'on a. Vous les retrouvez dans votre convention. À chaque année, il y a une petite augmentation. Ridicule, certaines années, elle ne couvre même pas l'inflation. Ça, vous le savez, vous l'avez vu peut-être dans nos communiqués de presse. On trouve que c'est un petit peu ridicule les montants qui sont avancés. Et ça va en principe jusqu'en 2026-2027. Je dis ça de même parce que c'est ce qu'ils nous ont dit en 2022. Nos conventions actuelles se terminent en 2026. Fait que pour l'instant, je vous dirais qu'il nous reste une autre année d'augmentation en 2026-2027 qui devrait être incluse dans la prochaine convention. Puis après ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Actuellement, on en est là avec les hausses de plancher de financement. Donc, il y a une année, à cause que notre convention se termine en 2025-2026, qui n'est pas incluse dans l'annonce du gouvernement qui a faite en 2022.
La décision
Du gouvernement, j'ai parlé tantôt un petit peu. Le gouvernement n'a pas retenu la proposition qu'on avait faite. Puis ça, c'est l'enjeu un peu pour laquelle je pense que la proposition avait été amenée lors du Congrès. Ce n'était pas une proposition qui était venue du CA ou de l'équipe, c'est une proposition d'un membre qui a été adoptée. Le gouvernement n'a pas retenu la définition de territoire qu'on a proposée au RODCD. Vous l'avez vu tantôt, là, celle avec les deux municipalités MRC, ainsi de suite, puis juste trois pour les nationaux. Il a appliqué une règle de 50 %. Donc, actuellement, pour être reconnu comme régional, un organisme doit démontrer qu'il est présent dans au moins 50 % des MRC de sa région administrative.
et
Pour être reconnu comme national, il doit rayonner dans au moins 9 régions administratives. Disons que c'était trop au départ. Donc, un organisme national doit quand même faire au moins la moitié des régions administratives pour être reconnu comme national. Bon. Ce qu'il y a, la particularité aussi, c'est qu'il l'a appliqué quel que soit le palier. Il n'est pas écrit là, mais c'est quand même important parce que ça joue. Fait que ça fait que il y a des organismes de base qui sont. Qui rayonnent pas dans la moitié des MRC de leur région administrative. Donc, ces groupes-là sont catégorisés comme groupes de base locale. Et les autres qui peuvent le montrer sont des groupes de base régionale. C'est pas une notion qu'on avait, c'est pas quelque chose auquel on avait réfléchi au RODCD. Ça n'existait pas dans nos revendications, mais ça l'a amené cette séparation-là, si on veut, ou cette nouvelle catégorie-là, plutôt, qui n'existait pas, puis à laquelle on s'était pas vraiment penché, nous autres, comme mouvement.
Sylvain, il te reste 5 minutes, c'est bon?
Ah oui, j'achète. Je vais rentrer en bas de 5 ans. Donc,
Oups, ça, je pensais que je l'avais effacé, celle-là.
je passe aux enjeux.
Enjeux? C'est ça. Alors, comme j'ai dit, les enjeux, c'est ça sur quoi on va avoir à travailler, réfléchir ou se poser des questions, voir qu'est-ce qu'on fait maintenant ou ce qu'on en est rendu suite à ce que je viens de vous proposer. Bon, la première notion, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans la première enjeu, c'est qu'il n'y a rien d'écrit, comme j'ai dit, dans le cadre normatif ni dans les conventions. Donc, si on veut vraiment concrétiser le plancher de financement, appelons-les comme ça pour des raisons de clarté, de façon claire, il faudrait se pencher, est-ce qu'on veut le faire comme une revendication et que ce soit écrit quelque part dans un texte? Parce que là, actuellement, on a roulé sur ça quand on s'est reposé la question, parce qu'après 2019, il y a eu d'autres augmentations, ceux qui sont là depuis quelques années vont s'en souvenir, on vous a consulté. Deux fois, je pense, sur les augmentations prévues. Il y a eu la première augmentation, on l'a faite en deux étapes. La première année, il y avait quand même un peu plus de 4 millions sur la table. On vous a consulté pour savoir comment on répartissait ces 4 millions-là. Puis ensuite, on s'est reposé la question comment on se répartissait, quelles propositions on avançait pour les années subséquentes du PAGAC. On a continué avec ces paliers-là qui avait été adopté en 2019. On ne s'est pas posé la question à ce moment-là, fait qu'on a refait une redistribution qui respectait ces paliers-là. Mais il n'y a rien d'écrit. Donc, si à un moment donné, le gouvernement voudrait décider de répartir l'argent selon des critères, ben on n'a pas vraiment de prise. On peut toujours dire qu'on n'est pas d'accord, ça, c'est pas un problème, mais je veux dire, il n'y a pas rien, on n'a pas de prise écrite pour laquelle s'appuyer pour dire contester la décision du gouvernement. S'ils changent leur plan sur le plan de match. L'autre enjeu, c'est est-ce que l'on maintient la proposition du RODCD en 2019? Bon, peut-être qu'elle a mal vieilli, mais c'est jusqu'à preuve du contraire. S'ils nous demandaient la question comment répartir, ben le vote qui a été pris en 2019, il n'a pas été battu officiellement. Donc, théoriquement, il existe encore, mais donc il faudrait se reposer la question, ça nous convient-tu encore, ce que je vous ai montré tantôt. Ou, puis c'est pas mal lié, est-ce qu'on adopte a posteriori la décision que le Saquet a prise en 2019? Bon, finalement, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, c'est pas quelque chose qu'on aurait réfléchi, mais là, c'est dans les faits, c'est comme ça que ça a été réparti, puis pour éviter de peut-être s'astiner sur d'autres choses, ben on va dire, on va vivre avec ce que le Saquet a décidé, puis ça, on veut que ça soit écrit vraiment cette fois-ci pour que ça soit maintenu. Ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Sinon, deux autres questions qui sont plus récentes puis qui découlent pas mal. La première, entre autres, découle pas mal du Congrès. Un autre enjeu, c'est là, vous avez un petit effort de mémoire aussi un peu. Lors du Congrès, là, ça touchait pas, là, ça touchait les seuils planchers, donc nos revendications. On a fait un peu une cassure avec toute l'histoire que je viens de présenter au niveau des seuils planchers. Et on a voté de demander 5 ETP, quels que soient les paliers, que ce soit local, régional ou national, pour tous les groupes. Donc, la question se pose maintenant, est-ce que suite à cette décision-là prise en congrès au niveau de nos revendications, est-ce que ce serait assez conséquent peut-être de dire, ben, on veut la même chose pour les paliers de financement, l'augmentation concrète? Ce qui aurait pour effet, sans rentrer dans le détail ici, qu'éventuellement, ben, peut-être que quand le... Parce que là, la question, elle se pose... Elle ne se pose pas demain matin, là. Okay, on s'entend, il y a pas, là, on ne s'attend pas à ce que le gouvernement nous annonce une augmentation de budget dans le prochain budget qui s'en vient le 25 mars. On serait bien content, là, mais on serait surpris. Okay, on s'entend. Mais donc, t'sais, je pense pas qu'il y a d'urgence nationale, mais si le jour où ce que le gouvernement va nous annoncer qu'il veut remettre de l'argent sur la table avec un certain montant, puis qu'il va nous demander comment vous voulez qu'on le répartisse, ben, on pourrait opter, dire, ben, vu, on veut d'abord que vous financiez les groupes de base et les regroupements régionaux pour qu'ils rattrapent le financement des groupes nationaux, par exemple. Puis une fois qu'on va avoir un montant commun, tout le monde, ben là, on l'augmente à peu près dans les mêmes proportions. Ça serait une façon de voir les choses. Finalement, ben, la dernière option que je vous dis, cacherai pas, qui c'est pas l'option que privilégie ni l'équipe ni le CA actuellement, c'est qu'on rouvre la boîte de Pandore, puis qu'on dit, on jette un peu tout ça aux poubelles, puis on revient avec les fameuses variables dont je vous ai parlé. Rapidement, là, je n'ai pas rentré dans le détail, mais tu sais, tous les autres critères, les autres choses qu'on peut, que les groupes légitimement, je remets pas, c'est pas ça que je veux dire, légitimement amènent pour demander plus d'argent et qu'on fasse les débats sur quels sont les autres critères. C'est pas, si c'est pas le territoire, c'est quoi? C'est-tu le déplacement, comme j'ai dit? C'est-tu la densité? C'est-tu bon? Pour ceux qui l'ont vécu, vous vous souviendrez, ça a toujours été un talon d'Achille, puis ça nous a toujours plus, ce débat-là nous a toujours plus divisé qu'autre chose. Fait que je vous dirais qu'actuellement, ni CA ni l'équipe est très chaud à l'idée de rouvrir tout ça. Mais c'est quand même ça adapte. Si on n'accepte aucune des propositions qui sont actuellement que je viens de vous présenter, on fait quoi? On demande autre chose? Puis si oui, quoi? Fait que voilà. C'est un peu ça que je voulais vous présenter. C'est un peu ça les enjeux. On va prendre le temps de le faire comme il faut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de propositions formelles qui sont annoncées pour l'Assemblée générale en mars. On trouvait que c'était précipité. Nous, notre souhait, cette étape-ci, c'est que les groupes comprennent vraiment c'est quoi les enjeux, c'est de quoi il est question. Puis on va quand même faire une discussion sur c'est quoi vos pistes que vous préférez. Quand même réfléchir à ça, OK, moi je m'en vais dans ce que se vient de dire des enjeux, c'est quoi nos préférences. Puis à la suite de ça, on va commencer à élaborer des propositions formelles pour voir s'il faut réviser la position du RODCD ou pas.